Chapitre 17. Malgré cette légère avancée dans la relation avec son beau-frère, Freddy revint de sa journée en mer offusqué d'avoir été largement ignoré par Tom, qui avait accordé toute son attention au petit Gustave. « On aurait dit que j'existais même pas », se plaignit le jeune homme en se dévêtant pour la nuit en regardant Madeleine déjà installée sous les couvertures. Par la fenêtre de leur chambre qui restait ouverte jusqu'à tard l'automne, les seuls bruits entendus émanaient des oiseaux nocturnes et du vent qui soufflait fort dans les arbres et faisait claquer les volets des maisons. Freddy se hâta de rejoindre son épouse et il jeta un regard intéressé sur les mamelons de sa femme, qui pointaient à travers la cotonnade beige de sa jaquette. Il ne put s'empêcher de tendre la main pour empoigner un sein bien lourd. « Freddy !» le réprimanda Madeleine en se glissant encore plus profondément sous la couette. « Quoi? J'ai besoin de réconfort après une journée aussi déprimante. » L'homme se rapprocha encore plus de son épouse. Il souleva la tenue de nuit de Madeleine et remonta sa main le long de ses cuisses dodues jusqu'à la toison qui cachait l'endroit visé par sa démarche exploratrice. La femme ferma les yeux et cacha son visage dans ses bras. Elle avait envie de se laisser caresser ainsi, même si elle savait que les plaisirs de la chair étaient sévèrement réprimandés par le clergé. Après un moment de passion entre les époux, elle choisit d'annoncer la nouvelle du mariage des deux aînés à Freddy. L'homme, à moitié endormi, ouvrit aussitôt les yeux et les fixa sur Madeleine, qui devina sa stupeur malgré la pénombre. « Pardon ?» demanda Freddy éberlué. « Voyons donc, c'est quoi cette niaiserie-là? C'est une farce, hein ?»«
Pas du tout !» affirma Madeleine en chuchotant. « Ils veulent pas se séparer. Tu peux comprendre ça, non? »« Maddy, ils ont presque 100 ans, ça se fait pas. Ils vont faire rire deux autres dans tout le village. D'abord, ils sont pas si vieux. » répliqua Madeleine, fâchée, en replaçant son bonnet de nuit déplacé par leur relation. « Et ensuite, c'est la meilleure solution pour que Rosario puisse rester au village. En fait, c'est la seule solution. »
La femme ferma les yeux, en ne laissant qu'une minuscule fente afin de vérifier la réaction de son époux. Elle espérait qu'il comprenne la signification de ses paroles, sans qu'elle ait à les expliquer. Malheureusement, Freddy, à présent bien éveillé, rétorqua « Je vois pas comment il va pouvoir faire ça. Son gendre s'en va à Gaspé. Rosario aura pas le choix de les suivre. Il n'y a plus de maison. » Madeleine fut soulagée de la noirceur de la chambre, car son mari ne put constater son embarras. Mais déterminée à accompagner les deux vieux dans cette aventure, elle clama avec passion « Justement, Palmyre m'a demandé si on accepterait que Rosario vienne vivre ici avec nous autres. Je lui ai dit oui, évidemment. » À ce moment-là, Freddy émergea des couvertures et s'assit bien droit dans le lit. Il haussa la voix sans se préoccuper d'Arthur qui dormait dans son petit lit. « Comment ça tu lui as dit oui? C'est encore moi le chef de famille ici, me semble. Depuis quand tu prends des décisions sans m'en parler? J'ai mon voyage. » Madeleine soupira en posant une main sur son ventre et de l'autre, elle agrippa son mari par le haut de son pyjama rayé. « Veux-tu bien parler moins fort et te calmer? » Je savais que tu serais d'accord quand tu comprendrais que, si on sépare ces deux vieux, ils vont mourir à petit feu, souffla la femme en tentant de faire appel au bon sens de son époux. Et comme de fait, à force d'arguments, Madeleine réussit à radoucir son mari. Il prendra pas de place dans notre maison puisqu'il va dormir avec grand-mère, commença Madeleine. La belle affaire! Es-tu en train de me dire qu'ils vont consommer leur mariage sous mon toit en plus? Questionna Freddy en grimaçant. « Arrête, ça ne nous regarde pas! » Pourtant, Madeleine rougit de nouveau à cette idée. Elle se rappelait lorsque sa jumelle et elle avaient entendu leurs parents faire l'amour dans leur jeunesse. D'abord confuse des sons qui provenaient de la chambre de Marcelin et Carmel, les filles avaient ensuite ricané chaque fois, généralement le vendredi soir, que les grognements et murmures s'étaient reproduits. « En plus, Rosario est pas petit, » continua Freddy. Il mange beaucoup, puis avec le bébé qui s'en vient, il va falloir qu'on augmente notre production de légumes l'été prochain. Imagine avec une autre bouche à nourrir. C'est pas Arthur et le nouveau bébé qui vont vider notre jardin, franchement. T'es de mauvaise foi, Freddy. Néanmoins, le pêcheur n'avait pas dit son dernier mot. On va faire quoi quand il va falloir payer pour les faire soigner tous les deux? Oublie pas que je veux louer ou même acheter une barge prochainement. Et après la journée que je viens de passer, je te dis que j'ai bien envie de commencer mes démarches l'été prochain.
Ça fait qu'on ne peut pas lancer notre argent par les fenêtres. Freddy, sois pas égoïste. Je suis pas égoïste, je suis réaliste, maugréa l'homme, maintenant enfoui sous les draps. Madeleine n'avait pas l'intention de lâcher l'affaire. Elle considérait que c'était son devoir de s'assurer que les dernières années de sa grand-mère soient les plus douces possibles. Si cela impliquait l'arrivée de Rosario Cyr dans leur maison, sa maison en fait, puisqu'elle en avait hérité, eh bien ce serait ainsi. Elle prit sa voix la plus ferme pour asséner son dernier argument. « Rosario va nous aider à la grave l'été prochain. Il dit que ça va lui permettre de contribuer à notre ménage à la hauteur de ses possibilités. Oublie pas qu'Émile risque de pas revenir. » Freddy, qui s'apprêtait à grommeler encore, resta la bouche ouverte à assimiler cette information. Comprenant que la partie était presque gagnée, la jeune femme ajouta « En plus, ça va te faire de l'aide pour entrer le bois et déneiger tout l'hiver. Jusqu'à la fin novembre, je vais être de plus en plus grosse et de moins en moins utile. Puis avec le bébé, ce sera pas évident non plus. Non, je te le dis, mon homme, je pense que ça va même devenir une bénédiction, ce mariage-là. » Freddy demeura silencieux un long moment, pesant le pour et le contre. Puis, en soupirant, il hocha sa tête brune, même si Madeleine ne pouvait pas vraiment le voir. « Ça a l'air que j'ai pas bien le choix. Tout semble décidé. » Son ton larmoyant fit sourire sa femme, qui l'embrassa affectueusement. Elle savait qu'il était peu habitué à ce qu'elle lui tienne tête. Madeleine était assez docile généralement, mais depuis la séparation d'avec sa jumelle, elle se sentait comme une louve avec les autres membres de sa famille. Que ce soit Clémence, Jean-Julien ou Palmyre, elle avait décidé que leur bonheur passait avant tout. En tout cas, avant le sien, ça c'était certain. Ne restait plus qu'à annoncer la nouvelle à son frère curé. Fermant les yeux pour sombrer dans un sommeil réparateur, la femme réalisa que la bataille serait encore plus difficile de ce côté-là. Jacqueline n'était pas du genre à approuver ce genre de projet qui sortait de l'ordinaire. « Je vais faire ça bientôt, mais pas cette semaine », songea Madeleine en se sentant un peu lâche de procrastiner ainsi parce qu'elle ignorait comment amadouer son frère. Chaque fois qu'il mettait les pieds dans le magasin général, Jacqueline devait s'assurer de ne pas regarder trop avidement la jeune Rosalie Taillefer. Mais avant même de pénétrer dans le commerce, il lissait sa mèche blonde sur le côté de son crâne et resserrait son large ceinturon qui entourait sa taille. Même s'il continuait de tenter de se convaincre que sa démarche de conseiller auprès de Rosalie n'était que pour l'amener à trouver l'homme qu'il lui fallait, c'est avec une profonde déception qu'il s'aperçut qu'Émile Pelletier se trouvait en grande discussion avec elle lorsqu'il poussa la porte en ce matin d'octobre. Gérola et William arrivaient tous les deux de la seconde partie du magasin avec des boîtes dans les bras. « Monsieur le curé, bonjour. »«
Bonjour, jeunes hommes, » clama Jacqueline d'une voix forte. « Vous allez bien ce matin? »«
Oui, merci. Qu'est-ce qu'on vous sert? » demanda William en déposant son colis sur son comptoir. Le marchand de 20 ans et son frère d'un an son aîné étaient loin d'avoir la carrure imposante de leur père Gaston. Tous les deux étaient maigres à faire peur, et même s'ils n'étaient pas jumeaux, ils se ressemblaient énormément. Jacqueline se passa la réflexion que des 3 enfants du marchand général, c'est Rosalie qui avait eu le plus de chance en ce qui avait trait à la beauté. Il baissa les paupières avec pudeur pour cacher ses pensées et jeta du même coup un regard vers la jeune femme brune. Comme chaque fois qu'il la voyait, une onde de désir vibra dans son corps et il fut heureux de porter sa soutane qui cachait le bas de son anatomie. Désemparé devant cette réaction, il tenta d'éviter le côté du magasin où se trouvait Rosalie, mais celle-ci, qui venait juste de finir de servir Émile en minaudant un peu, fit un signe de la main au curé. Ne pouvant l'ignorer, l'homme hocha la tête et s'avança. « Bonjour, monsieur le curé !» le salua la jeune en souriant. « C'est une belle journée, n'est-ce pas ?» Jacqueline approuva sans répondre et appuya son ventre imposant contre le comptoir de bois. Rosalie jeta un coup d'œil vers Émile au fond du magasin et chuchota à l'homme d'église. « Je pense que ce gars-là me ferait un bon mari, qu'en pensez-vous ? Il est pas mal gêné, mais au moins il me parle un peu plus que l'année passée. » Jacqueline tourna sa tête vers Émile pour éviter de regarder le corps voluptueux à souhait de la jeune célibataire.
dans sa grande salopette de denain toute tachée, la casquette un peu croche sur sa tête frisottée, le terrien n'était pas à son meilleur. Le curé avait envie de répliquer que ce n'était certainement pas un rustre de cette nature qui devrait avoir la chance de marier une aussi jolie fille. Mais bien sûr, il retint ses pensées et posa plutôt quelques questions à voix basse. « C'est l'engagé de mon beau-frère Freddy ?»«
Oui, c'est bien lui. C'est un pelletier, si je ne me trompe pas. »«
Le plus jeune des fils de Lazare, en effet, » répondit Rosalie en souriant naïvement. Jacqueline hocha la tête de haut en bas en réfléchissant. Puis il tapota la main de la marchande en précisant « Ah bon ?»«
Alors je ne suis pas certain que ce soit un choix approprié, mademoiselle Taillefer. »
« Oh, comment ça ?» Débinée, Rosalie fixa le grand costaud au fond du magasin, qui jasait avec les deux vieux assis autour du baril. Même si elle ne ressentait pas le petit pincement au cœur qu'elle avait chaque fois que Freddy Poirier entrait dans le commerce, il n'en demeurait pas moins qu'Émile lui semblait un bon parti. Elle fit une moue que le curé jugea adorable et planta ses iris bruns dans ceux de Jacqueline.
« C'est pas une bonne famille ? » Moi, je les connais pas, ils sont partis à Gaspé, ça fait longtemps. »
Bien déterminée à profiter de la situation, Jacqueline fixa le visage de la marchande et proposa, avec un calme qu'il était loin de ressentir, «
Écoutez, très cher, je vous propose de venir en discuter à l'église cette semaine, disons, mardi matin. Je dois aller à l'école, m'assurer que la catéchèse est enseignée comme il faut et ensuite je serai de retour. Je vous attendrai vers 10h30. »
Embêtée d'être de nouveau convoquée par le curé, Rosalie retint un soupir de découragement. Il lui semblait pourtant qu'en jetant son dévolu sur Émile Pelletier, elle avait réglé la situation. Surtout que ce dernier venait de l'aviser qu'il avait choisi de rester au village pendant l'hiver.
« Je vais travailler à l'usine de la Robin. »
De toute manière, ça ou la manufacture de Gaspé, c'est la même affaire. Au moins, en demeurant ici, je risque de trouver un pêcheur prêt à me prendre comme second la saison prochaine.
« Tu travailleras plus pour Freddy ?»
avait demandé Rosalie. « Si je peux arrêter, non. Mais je l'ai déjà averti. Ce sera pas une surprise, t'en fais pas. Il sait que je préférerais être sur une barge. Ça fait deux étés que je reste sur la grave et c'est pas ce que je veux faire. Non, moi, je veux avoir mon bateau un jour. »
Rosalie s'était félicitée de son choix, en se disant que c'était un homme plein d'ambition.
Et voilà que Jacqueline venait réfréner ses ardeurs. Le curé Gérard ne pouvait-il pas se préoccuper du sort d'une autre villageoise? Ses frères aînés, William et Girola, observaient la conversation de l'autre côté de l'allée avec attention, et ils tentaient de saisir ce que leur sœur avait fait de mal pour que l'homme d'église s'attarde aussi longtemps auprès d'elle. Retenant un soupir de découragement, Rosalie tendit une bouteille de shampoing à Jacqueline et acquiesça à sa demande. De toute manière, la femme savait qu'elle n'avait pas d'autre option.
« Je viendrai vous voir mardi matin, monsieur le curé. »
Satisfait, Jacqueline la salua avant de traverser l'allée pour aller chercher d'autres denrées. Il avait une petite liste à la main et prit tout son temps pour choisir les meilleurs produits. Gaston sortit de son bureau vitré pour venir le saluer et lui fit comprendre que ce n'était pas nécessaire d'ajouter ses achats sur sa note de crédit.
« Notre curé mérite d'être bien traité », précisa le gros homme au crâne de plus en plus dégarni. « Eh bien, je vous remercie, monsieur Taillefer, et je ne manquerai pas de penser à ce geste dans ma prière du soir. »
Le commerçant se sentit bien important de cette belle attention. Et il releva les épaules pour faire comprendre à ses fils que c'était ainsi qu'on traitait les notables d'un village. Girola et William, qui n'avaient pas l'autorité pour offrir ainsi à des clients leur achat du jour, firent la moue en échangeant un regard entendu. Leur père était reconnu pour être assez radin, et le geste qu'il venait de poser ne risquait pas de se reproduire très souvent.
« Dites donc, vous êtes en âge de vous marier tous les deux, n'est-ce pas ?»
s'informa soudainement Jacqueline en se disant qu'il était de bon ton de vérifier les relations de tous les enfants Taillefer habitant encore au village. Girola, comme son frère, approuva en tentant de prendre une attitude détachée, même s'il était bien fier de répondre « Oui, moi je suis fiancé avec la sœur du maître de Grave, » annonça-t-il, « puis moi avec Adeline Laberge de Percé, » ajouta son aîné.
Satisfait de cette réponse, Jacqueline prit le sac de papier dans lequel ses achats avaient été glissés et réalisa qu'il s'était attardé assez longtemps au magasin. Il ne voulait pas que ses ouailles se mettent à jaser sur sa nonchalance. Après un dernier regard sur Émile, dont les bottes étaient bien campées sur le plancher et les bras croisés sur le devant de son corps massif, Jacqueline tenta de rentrer son ventre et salua la famille Taillefer de sa voix tonitruante. « On a quand même gagné au change », clama Gaston quand la porte se referma sur le curé. « Ça fait du bien d'avoir un petit gars du coin devenir responsable de notre village. » C'est pas que j'aimais pas le curé Mathieu, mais avec Jacqueline Gérard, on est certain que notre paroisse va rester un endroit respectable. Le mardi 15 octobre, Jacqueline se réveilla à 6h30, comme tous les jours. Il prit le temps de savourer une tasse de thé bien bouillante et il mangea une grosse tranche de pain blanc, accompagnée de confiture de fraises, gracieuseté de la femme de son bedeau, Gédéon Ouimet. Assis à la table de sa petite cuisine, il laissa ses yeux errer sur le village en contrebas, puis sur la mer, où le vent d'automne fabriquait des moutons blancs qui valsaient dans toute la baie. Quelques barges s'éloignaient, et il se demanda comment aurait été sa vie si elle avait choisi de devenir pêcheur à temps plein, comme son père Marcelin et son grand-père Arthur. Après son entrée au monastère de Gaspé, Jacqueline n'avait jamais remis sa foi en question. À aucun moment, il n'avait songé à la vie maritale qu'il avait sacrifiée en offrant son être au Seigneur. « Je n'aimais pas tellement ça, être en mer toute la journée. Je me rappelle que papa me disait toujours de lâcher ma Bible pour vérifier mes lignes. » Marcelin et Carmel avaient été les premiers satisfaits lorsqu'il avait choisi cette voie. En laissant sa vaisselle sur son comptoir pour que Madame Ouimet puisse la laver en venant faire le ménage, Jacqueline ressentit un frétillement dans tout son corps en songeant qu'il aurait un moment intime avec Rosalie d'ici quelques heures. Il se regarda dans le miroir de la minuscule salle de bain à l'arrière de la maison en rasant sa barbe blonde. « Je vais être obligée de la réprimander sur son choix de prétendant, le fils d'un alcoolique. C'est loin d'être approprié. » « Encore une fois, je tenterai de bien la diriger », réfléchit-il, en tapotant sa mâchoire avec une légère lotion mentholée que la jeune femme lui avait proposé d'acheter la semaine précédente pour apaiser sa peau, fragile au niveau du menton. L'homme d'église s'était laissé convaincre d'utiliser ce produit fabriqué aux États-Unis. « Vous verrez, monsieur le curé, » avait gentiment expliqué Rosalie, « votre peau sera plus jamais sèche avec ce produit-là. » Elle avait pointé un doigt et avait malencontreusement touché le visage de Jacqueline, qui s'était retenu de refermer sa main sur la sienne. À 7h30, il ferma la porte de sa maison, après avoir enfilé son long manteau foncé et le bonnet sobre qui couvrait sa chevelure raide. Servant à garder sa tête bien au chaud, le couvre-chef s'avérait également un signe d'humilité. « En route! Heureusement que la journée n'est pas trop froide, parce que c'est quand même une bonne marche. » Jacqueline était un homme massif, qui aimait les longues promenades extérieures. Il acceptait rarement les offres de son bedeau de le conduire avec sa carriole. Même si l'automne était bien installé, il s'engagea dans le chemin d'un pas rapide, en respirant profondément l'air frais du matin. Les cheminées du village fumaient en continu depuis quelques semaines déjà, et le curé se félicita d'avoir enroulé son foulard blanc autour de son cou. La marche jusqu'à la petite école du Rang-Lapinière lui prendrait environ 35 minutes. Il avait prévu y rester au maximum 1h15, afin de revenir à temps pour son rendez-vous avec Rosalie. Juste à y penser, il accéléra le pas pour arriver rapidement à l'école de Lens. « Plus vite j'y suis, plus vite j'en pars », murmura l'homme en faisant de larges enjambées. Après quelques jours de réflexion, Madeleine avait pris une décision sans en parler à Freddy. Une autre, culpabilisa-t-elle, en sachant que son époux s'opposerait à son idée. Mais la jeune femme voulait absolument demander conseil à Simone pour savoir comment aviser leur frère du projet de mariage entre Rosario et Palmyre. Le temps commençait à presser et même si sa grand-mère ne disait rien, Madeleine sentait parfois son regard se poser sur elle avec insistance. Mais à l'idée d'affronter seule le curé, qui risquait de bien mal accueillir l'intention des aînés, la jeune femme perdait une grande partie de ses moyens. C'est dans de tels moments que Simone lui manquait le plus. Sa jumelle n'avait jamais eu peur de s'opposer à Jacqueline. En plus, peut-être que ça va nous mener lentement sur la voie de la réconciliation, cette belle aventure-là, espéra Madeleine, même si Freddy lui avait souvent dit de lâcher prise depuis la mort de son neveu. « Comment veux-tu que j'abandonne la possibilité de retrouver ma jumelle un jour? » renchérissait-elle. « Tu peux pas comprendre, Freddy, laisse faire. Peut-être bien, » grognait alors son mari. « Mais je pense que tu rêves en couleur. » Pour Madeleine, l'espoir d'un rapprochement avec Simone tournait parfois à l'obsession. Chacune de leur côté, les sœurs s'observaient, s'épiaient et se veillaient même, comme des louves à l'affût. Quand Arthur fut endormi pour sa sieste du matin, sa mère traversa donc chez sa voisine Lucienne pour lui demander de venir tenir compagnie à Palmyre. « Grand-mère m'a dit qu'elle peut prendre soin du petit, mais je veux pas la laisser seule avec Arthur. Il est pas mal maussade depuis une couple de jours parce qu'il perce des dents. Il se réveille souvent et elle est pas vite sur ses jambes. Je veux pas l'inquiéter ou qu'elle chute de nouveau. » Madeleine sourit à Lucienne qui s'informa, curieuse. « Tu t'en vas où? »« Oh, j'ai une commission à faire, » répondit-elle vaguement. Elle aimait beaucoup sa voisine, mais n'avait pas l'intention de discuter de sa relation, ou plutôt de l'inexistence de sa relation, avec sa jumelle. Madeleine était bien déterminée à ne pas se faire fermer la porte au nez une fois arrivée à la maison du troisième rang. « J'y vais, à tantôt !» annonça-t-elle en mettant son chapeau sur sa tête, alors que Palmyre et Lucienne s'installaient à la table de cuisine près du poêle pour une partie de cartes. « J'ai l'impression qu'elles vont jaser plus que jouer. » rigola Madeleine, qui connaissait le goût du commérage de sa voisine. Toutefois, elle ne dit rien et sortit en passant par la cuisine d'été, à présent condamnée à servir de tambour pour la saison froide. Sans le savoir, la femme risquait de croiser son frère, qui revenait de l'école de Lens à grande foulée. Heureusement pour tous les deux, Madeleine tourna sur le chemin menant chez Simone, au moment où le curé s'engageait dans le rang Soriol, un peu plus à l'ouest. Devant la Maison Blanche, la femme replaça son chapeau sur sa tête et remonta le col de son manteau usé. « Je lui donnerai pas le choix de m'écouter, » décida Madeleine. « Au moins, les hommes sont en mer, sinon Tom me sortirait de chez lui par les cheveux. Il me déteste tellement. Je sais que rien de ce que je pourrai jamais dire amènera son petit Éloi. Rien. » Elle prononça une courte prière pour se donner du courage et avança vers la porte de côté. Comme elle allait cogner, la voix de Simone l'interpella sèchement derrière son dos. « Qu'est-ce que tu fais ici? » Étonnée, Madeleine se tourna pour faire face à sa sœur, qui tenait quelques bûches dans ses bras. Soupirant profondément sans regarder sa jumelle dans les yeux, elle poussa la porte qui était entr'ouverte et s'avança dans la pièce pour déposer ses morceaux de bois dans une profonde caisse près du couloir. Sans attendre son invitation, sa sœur la suivit et referma la porte derrière elle. Simone se retourna et croisa les bras de manière défensive sur le devant de son manteau tout sale. Elle ne l'utilisait que pour les tâches extérieures et ne s'embarrassait pas de son apparence. Elle reprit sa position dissuasive. « Il faut que je te parle », commença bravement Madeleine, même si elle sentait sa détermination faiblir devant le visage fermé de Simone. Cette dernière leva la main et secoua la tête de gauche à droite. « Tu le sais, j'ai rien à te dire, » cracha-t-elle. « Je dois aller m'occuper de Béa. Tu refermeras la porte derrière toi. Simone, je te demande pas de me parler, mais de m'écouter, je t'en prie. Non, va-t'en, m'a dit. » Simone détacha son manteau, l'accrocha au mur et se dirigea vers son salon, de l'autre côté du couloir. Madeleine l'apostropha alors froidement. « Même si je te dis que je veux te parler de grand-mère et que c'est important,